nombreux. Le réveil a dû sonner un peu tard pour certains. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Merci Sam. J'avais vu que tu étais au premier rang. C'est vrai que en écoutant ce matin Christian nous raconter ce conte, j'avais un peu la même idée de parler d'essayer de vous proposer un conte comme ça, mais je m'aperçois que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout les talents de conteur, absolument pas. Écoutez, je vais remettre quand même ces moments-là parce que ça m'est impossible autrement dans les mains du Seigneur. Je te remercie Seigneur de ce que tu nous as rappelé, de ce que nous sommes des instruments dans tes mains, uniquement dédiés à ta gloire et à la louange de ton Saint-Nom. Permets maintenant que chacun de nos cœurs, Seigneur, soit éclairé par ce que tu as à nous dire, afin de mieux te connaître, de mieux te suivre et de mieux transmettre ta lumière, Seigneur. Prends chacun de nos cœurs, chacune de nos pensées, Seigneur, et permets qu'elle te soit pendant ces moments, qu'elle te soit dédiée. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Noël, est-ce un conte ? Au préalable, une petite définition que j'ai récupérée dans Wikipédia. Le mot de Noël est apparu en 1112. Et il est issu d'une évolution phonétique de Naël et une modification vocalique, je cite la définition, du latin natalis, relatif à la naissance. En fait, c'est une déformation de mots qui voulait simplement dire la natalité. Et donc, c'est devenu Noël, c'est relativement récent. Et c'est quand même un jour exceptionnel, puisque la famille est réunie et que nous allons pouvoir ouvrir ce cadeau de Noël, ce cadeau que Dieu nous a fait, non par main d'homme, c'est pas un cadeau d'homme, mais c'est bien un cadeau de la volonté de Dieu. Et je vous propose donc, pour explorer cette affirmation qu'on a depuis ce matin, de commencer comme un conte. Le conte commence par « Il était une fois », donc j'avais prévu de commencer comme ça, je ne vais pas le changer. Il était une fois, il y a fort longtemps, 2400 ans environ, un peuple créé de toutes pièces, un peuple qui s'éloignait de son Créateur. Il s'en allait de plus en plus pour faire ce qui lui plaisait, conduit tantôt par un roi infidèle, tantôt par un roi idolâtre. Et le petit focus de ce matin était surtout sur un temps du roi de Juda, du nom de Ahaz, fils de Jotham. Et voilà que, par son inconduite, dans la désobéissance, dans le péché, ce peuple marchait de plus en plus dans les ténèbres. Et quand on s'éloigne de son Créateur, on commence à avoir des orages un peu comme ça au-dessus du cœur. Et ce peuple commençait de plus en plus à craindre les Assyriens. Ils devenaient de plus en plus puissants, de plus en plus conquérants. Et ils étaient juste précédés par leur réputation de cruauté, de sanguinaire. En fait, un peu comme aujourd'hui, malgré ce beau soleil, on commence à avoir des nuages un peu sur ces édifices qui peuvent s'écrouler, ou auxquels rien ne résiste. Je pense par exemple à cette centrale qui a été balayée par un tsunami, ou bien par cet édifice virtuel qui est l'édifice financier qui est petit à petit en train de se fissurer comme un château de cartes. Et pourtant donc dans ce peuple, un prophète élève sa voix et fait retentir une parole d'espérance, de salut. Le livre d'Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerriers qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Et il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le plus important est le verset 5, et l'une de nos sœurs a lu ce passage ce matin. « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné. Et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. » Vous connaissez certainement ces films actuellement qui mettent en sort des sauveurs de l'humanité. Batman, ses oreilles de chat. Sa concurrente, Batwoman, version pour les féministes. Spider-Man, avec un mélange d'ADN assez incroyable. L'incroyable Hulk, les quatre extraordinaires, j'en passe, et bien d'autres. Remarquons aussi que, pour certains, ils ont cette capacité, ou cette volonté de se cacher aux yeux de tous. Ils ont un masque sur les yeux. Toutes ces figures de sauveurs sont forgées dans l'esprit des hommes pour sauver l'humanité, pour rendre la justice, pour venger les plus démunis. En fait, ils sèment eux aussi la mort, la terreur et la peur. Chacun d'ailleurs voulant appliquer sa propre justice ou déterminer une justice selon ses propres critères. J'en ai même oublié de regarder les noms des méchants qu'ils combattaient, tant ils sont nombreux. Pourtant, dans notre texte, le sauveur d'Ésaïe est annoncé au temps présent. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il a écrit 740 ans avant la venue de Christ. Et il l'a qualifié de quatre titres. Merveilleux conseiller. Il sera équipé d'une sagesse autant égale, voire supérieure, à celle dont a été équipé Salomon. Un peu plus loin, dans le livre d'Ésaïe, toujours on peut lire au chapitre 11, les versets 1 et 2, qui décrivent véritablement ce qu'est un merveilleux conseiller. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des ouï-dire. Ce n'est point donc selon les apparences qu'il jugera, contrairement à ses justiciers au fondement humain. Le deuxième élément, c'est un Dieu fort, l'affirmation de la divinité de Christ. Par deux fois, devant le souverain sacrificateur et Pilate, alors qu'il lui demandait s'il était le Fils de Dieu, il répondra, tu l'as dit. Le troisième critère, troisième attribut, c'est Père à jamais. Il faut comprendre là l'expression du mot Père, une expression de royauté. Luc 2, 32 nous dit que l'ange dit à Marie, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Enfin, il est appelé aussi Prince de la paix. À l'âge adulte, ce rejeton dira, rapporté par l'évangéliste Jean, « Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, c'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Ces quatre éléments-là, ces quatre attributs, décrivent son autorité, son étendue. C'est vrai que cette description ne s'attache pas aux qualités physiques. Ce ne sont pas des hommes avec d'énormes pectoraux, des tablettes de chocolat. Non. C'est plus sur sa volonté. D'ailleurs, un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe, il est écrit aussi « Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. » Aucune comparaison possible de ces surhommes dont on veut nous aveugler aujourd'hui. On veut nous faire croire que l'homme est un salut pour l'homme. Non. Seul cet enfant roi, envoyé de Dieu, est venu pour sauver l'humanité. Alors, on peut remarquer qu'Ésaïe pointait le regard vers celui qui allait venir. Il pointait le regard vers Christ. Et pour lui, c'était une certitude, il l'annonce au présent. Un peu avant, il était écrit, « Le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la fille sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Aux yeux et aux oreilles de certains de ses contemporains, Ésaïe certainement devait passer pour un illuminé, notamment ceux qui ne croyaient pas. Le monde n'a pas changé. Il devait certainement poser des questions, mais quand arrivera-t-il? Dans quelle ville? Et voilà que 740 ans après cette prophétie, Christ est né. C'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Le plus beau cadeau de Dieu fait à l'humanité tout entière pour le salut de chacun qui croit. C'est cela Noël, rien d'autre. Le moment où Dieu, plutôt que de répandre sa colère sur les hommes, a préféré nous faire cet admirable cadeau immérité. Si les hommes de l'époque de la naissance de Christ, les contemporains de Christ, n'ont pas pris conscience de l'importance de l'événement, il nous est quand même rapporté plusieurs choses. D'abord, les anges ont exulté de joie. L'un d'entre eux annonce au berger, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. » Et au verset 13, je ne sais pas si on peut l'imaginer, et tout à coup apparut aux côtés de l'ange, donc qui est en train d'annoncer au berger la bonne nouvelle, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Vous imaginez les fenêtres des cieux ouvertes et des anges penchés à louer Dieu. C'est extraordinaire comme image. Les cieux se sont penchés sur la merveille de cette naissance tant elle est porteuse de promesses. Exactement comme Ésaïe l'avait affirmé. Plus tard, suivant la loi, cet enfant fut présenté au Seigneur. Et quoi de plus inoffensif qu'un enfant? En le voyant, on ne sait pas. En voyant un enfant, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On a de l'espérance, on pense. Mais le voyant, on ne sait pas du tout ce que demain il sera. Pourtant, lors de cette présentation, deux personnes vont être croisées. Siméon et Anne la prophétesse. Et toutes les deux, ces deux personnes, louer Dieu de ce qu'ils avaient vu, le Christ de Dieu, le Messie de Dieu. De ce que ce bambin serait lumière pour éclairer les nations. Il faut être sacrément éclairé pour voir qu'un enfant va devenir le Sauveur. Il précise qu'il sera là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Seul Hérode, la méchanceté, la cruauté, prévenu par des mages, s'est laissé aller à une extraordinaire cruauté au point de tuer les enfants nés dans la région où était né Jésus et de l'âge approximatif de Jésus. Voilà donc la véritable signification de Noël, la naissance de ce sauveur, de ce roi, qui n'avait ni éclat, ni beauté pour retenir l'attention, et encore moins revêtu d'un habit de lumière. Dans la définition de Noël, lue dans cette encyclopédie, il est précisé que cette fête est devenue profondément profane. On pourrait presque le lire, quand j'ai lu ça ce matin, hier, on pourrait presque le lire avec un regret exprimé dans le texte. Le malin ne peut pas effacer de l'histoire cet événement. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il met des trompe-l'œil. Vous avez vu ces bâches qu'on met devant les bâtiments pour les rénover, pour ne pas voir les travaux. Mais c'est ce que fait le malin. Afin de nous faire croire que nous marchons dans la lumière, il a prévu tout un tas d'éclairages, de spots, de lumière artificielle. Il veut cacher qu'en Jésus, en cette naissance-là, il y a le salut des hommes qui est prévu. Il veut cacher cet Emmanuel, signifiant Dieu avec nous, ce doux nom de Jésus. Et il a permis, ce malin-là a permis que cette fête-là devienne une fête commerciale, marchande, échange de cadeaux, comme une manifestation que l'on peut se témoigner les uns aux autres. En fait, c'est ni plus ni moins que de la possession, de la convoitise, tiens, comment est ton cadeau, oh, il est plus beau que le mien, l'idolâtrie, possession. Est-ce qu'un bien, quel qu'il soit, peut témoigner de l'amour qu'on a pour quelqu'un? Non, je crois pas. C'est une marque d'attention. Et le cadeau de Dieu va bien au-delà. Il nous fait cadeau, Dieu nous fait cadeau, c'est ce que nous avons, ce qui nous a été rappelé ce matin. Il nous fait cadeau de son Fils incarné, devenu être humain. Un enfant ne peut pas sauver. Il a donc fallu que Christ grandisse pour réaliser pleinement les plans de Dieu. Et que les prophéties d'Ésaïe soient réalisées. Durant son ministère, il étend ses promesses à tous les hommes qui ne sont pas son peuple. Luc nous laisse, il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, son peuple. Les nations, en l'occurrence, c'est nous. Et la gloire de son peuple, oui, puisqu'il est du peuple juif. Mais comment peut-il sauver ? Non pas en réalisant des prouesses humaines, non pas en réalisant des jugements, comme peuvent le faire ces surhommes évoqués en introduction. Il n'est point venu pour juger, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Non, il n'a que, si je peux m'exprimer ainsi, que réaliser la gloire de Dieu. Le cadeau de Dieu pour nous, c'est Christ. Le cadeau de Christ pour nous, c'est le don de son cœur, c'est sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions être au bénéfice de toutes les bénédictions qu'il a préparées d'avance pour nous, dès que nous mettons sa confiance en lui. Jean nous rapporte la parole de Jésus, mais il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner sa vie pour ses amis. Nous montrer tous les cadeaux qu'il a pour nos vies. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, il est écrit « Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Chaque matin, elle se renouvelle. C'est l'autre partie du cadeau de Dieu. Toutes les bénédictions au bénéfice desquelles nous sommes de jour en jour. Chaque jour, elle se renouvelle, tant et si bien que ce peut être Noël tous les jours avec Jésus. Chaque jour, il peut nous montrer tous les trésors qu'il a pour nous. Soyons attentifs. Il ne s'agit pas de trouver ces bénédictions accrochées à un sapin, ou bien au pied du sapin. Parce que ce serait bien pour les premiers qui arrivent. Mais pour les derniers, ça pourrait poser problème. Non, non, non. Ces bénédictions-là, elles sont dans son livre. N'est-il pas écrit « Cherchez et vous trouverez »« Frappez et l'on vous ouvrira » Ce n'est pas sur un arbre, quand bien même le conte de Christian était très beau ce matin, ce n'est pas sur un arbre que nous allons trouver ces trésors. C'est dans son livre. Alors que Marthe et Marie étaient dans l'affliction, parce que leur frère venait de partir, de perdre la vie, voilà que Jésus leur ramène à la vie. C'est pas un cadeau qu'il leur a fait. Et tout en faisant ce cadeau, il nous montre ce que nous allons vivre avec lui. Après qu'il nous ait libérés du pays de servitude, de ce péché dans lequel nous sommes, de notre prison, il va nous faire vivre avec lui. Jean-Baptiste a décrié « Voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous sommes au bénéfice de ces cadeaux tous les jours, sans attendre une fois l'an cet anniversaire. L'autre exemple que je vous propose après la résurrection de Lazare, qui est une préfiguration de ce que nous allons vivre. Voici un témoignage. Ken Dauter, je m'excuse sur le nom, est un professeur à l'école biblique Emmaüs aux USA. L'un de ses enfants est né avec une malformation de l'aorte qui devait tout interdire tout effort à l'enfant. Pas de jeu, une vie vraiment à l'abri, presque dans une bulle. De la consultation avec le chirurgien, il ressort qu'il fallait envisager, dès l'âge de 9 ans, une opération lourde. Le rendez-vous est pris dans les 6 mois suivants, et au moment de quitter le chirurgien, Ken et son épouse témoignent de leur foi. Et qu'ils témoignent de ce que ce Dieu créateur-là, il croit en lui. Et il déclare, nous allons prier pour lui demander que notre fils soit guéri. Ils ont donc prié avec des amis. À la seconde visite, le chirurgien a constaté que toute la lésion avait disparu. Ce que le chirurgien a d'ailleurs mal pris, ce qui est aussi relativement extraordinaire pour cet homme. C'est pas un cadeau qu'il a fait, que Dieu fait aux hommes. Quand nous recevons un cadeau, est-ce que nous ne sommes pas empressés de le montrer, de le partager? Tiens, tu as vu ce que j'ai eu? Qu'est-ce que tu penses de ma cravate? Elle n'est pas belle, ma chemise? Est-ce que nous ne pouvons pas, de la même manière qu'il a des bénédictions pour nous tous les jours, parler, montrer, partager ce don merveilleux de Dieu en Jésus-Christ? Dans le livre des Actes, Luc nous rapporte que cette parole... Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ésaïe pointait le regard vers Christ, du passé vers le futur. Aujourd'hui, nous pouvons pointer le regard vers Christ, de ce qui s'est passé, son ministère terrestre comme un cadeau, vers le futur, de ce qu'il va revenir. Nous avons en plus un avantage par rapport à Ésaïe. C'est que sa prophétie est accomplie. Nous avons par là même la preuve que sa parole est vérité. Son prochain cadeau à son peuple est qu'il va revenir. Nous témoignons aujourd'hui de ce qu'il fait dans nos vies pour une vie éternelle avec lui. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 28, il est écrit « De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » Il était une fois un peuple choisi par Dieu, un peuple qui s'est constitué dont l'ultime cadeau, l'ultime don sera l'enlèvement pour demeurer avec lui éternellement. C'est le parallèle qu'on peut faire avec Ésaïe. Ésaïe attendait le Sauveur. Nous attendons son retour. C'est pas la fin de ce conte, c'est pas ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. La fin de ce conte, elle est dans le livre, dans le dernier livre de la Bible, et ce sera ma conclusion. Au chapitre 3, en français courant. Je viens bientôt. Tiens solidement ce que tu as. Ainsi personne ne prendra ta récompense. C'est le cadeau. Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans les temples de mon Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Cette ville, c'est Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel envoyée par mon Dieu. Sur eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie de ce que tu nous as rappelé, que ta grâce est encore ouverte pour permettre aux âmes qui ne te connaissent pas de pouvoir être éclairées par la croix, par ton sacrifice, par ce cadeau merveilleux que tu nous as fait de ton Fils et de cette vie qu'il a donnée pour nous. Mais Seigneur, nous sommes aussi dans l'attente de ton retour. Nous sommes aussi, Seigneur, prévus pour que nous puissions être rassemblés autour de toi. Nous puissions glorifier du matin au soir ton saint nom. Qu'il n'y ait plus aucune injustice, ni aucune maladie qui puisse, Seigneur, nous mettre dans l'affliction. Merci pour ce rappel, merci pour ce merveilleux cadeau à venir encore, Seigneur, ton retour. Amen. Amen.
Dans la mangeoire, c'est Dieu avec nous et il a promis d'être avec nous tous les jours.